Et on s'arrête avec Guillaume Ancel, notamment, que je salue. Bonsoir Guillaume, merci d'être là. Ancien officier et écrivain, auteur de Un casque bleu chez les Khmers rouges aux éditions des Belles-Lettres. On va s'arrêter sur la dernière question, forcément excellente, d'Ulysse Gosset, qui était posée à l'instant. Verra-t-on un jour Poutine jugé par un tribunal international? Il y a du nouveau ce soir. L'élément nouveau, c'est donc que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, propose la création d'un tribunal spécial international pour enquêter sur les crimes de la Russie.
Nous proposons de créer un tribunal spécial, soutenu par les Nations Unies, pour enquêter sur les crimes d'agression de la Russie et la traduire en justice. Nous sommes prêts à travailler avec la communauté internationale pour obtenir le soutien le plus large possible pour ce tribunal. La Russie doit également payer financièrement la dévastation qu'elle a causée. Nous allons travailler à un accord international avec nos partenaires pour rendre cela possible. Et ensemble, nous pouvons trouver les moyens légaux d'y arriver. Les crimes horribles de la Russie ne resteront pas impunis.
Voilà ce que veut la Commission européenne, sa présidente, un tribunal spécial. Il faut nous éclairer, Ulysse Gosset. Il y a déjà une Cour pénale internationale qui est chargée d'étudier, de juger les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, etc. Pourquoi vouloir, comme le veut Ursula von der Leyen, et le proposer aux Européens, le proposer éventuellement aux États-Unis, la création d'un tribunal spécial? Qu'est-ce que ça change?
D'abord, il faut préciser que Vladimir Poutine et ses principaux ministres de la guerre ou de l'affaire étrangère ne peuvent pas être traduits devant ce tribunal dans les circonstances actuelles. Il faut un tribunal spécial. Il faut dire aussi que les États-Unis ne reconnaissent pas le tribunal de la Haye. Ils n'ont jamais voulu d'ailleurs
reconnaître la Cour pénale internationale.
Aucun tribunal qui pourrait un jour éventuellement juger les Américains, traduire par exemple des militaires américains en Irak ou ailleurs devant une juridiction. Donc, il faut trouver une autre formule. Il faut inventer autre chose et avoir l'avis des grandes puissances. Et donc, par les Nations Unies, on a une possibilité de le faire. Mais, comme l'a dit la présidente de la Commission européenne, ça pourrait avoir lieu dans le cadre des Nations Unies. Ça voudrait dire soit qu'il y a un vote du Conseil de sécurité des Nations Unies, et là, on se heurterait au veto russe, immanquablement, ou bien un vote de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et ça permettrait...
Il y a beaucoup plus de pays.
Plus de pays et peut-être moins d'opposition. En tout cas, pas de veto ni de la Chine ni de la Russie. Donc, ça permettrait peut-être de lancer ce projet qui prendra des années, de toute façon, ne l'oublions pas, pour pouvoir enfin lancer cette enquête internationale qui permettrait de juger, comme on l'a fait, les crimes de guerre qui ont été commis dans les Balkans, en particulier dans l'ex-Yougoslavie. Donc c'est l'idée des Européens, c'est avant tout une déclaration politique pour dire on ne pourra pas laisser impunis ces crimes de guerre commis en Ukraine.
Je vais poser une question de naïveté, mais je trouve cette déclaration d'Ursula von der Leyen un peu étrange. Je trouve que, est-ce que c'est bien le rôle de la présidente de la Commission de faire cette demande? Je pense que...
Oui, j'allais juste ajouter une chose. On sent que c'est une volonté, effectivement, comme le disait Ulysse, de faire une déclaration politique pour dire...
Oui, c'est politique. Zelensky, c'est surtout Zelensky le veut, on soutient Zelensky, donc on le veut.
Mais en revanche, ce qu'elle précise aussi, donc c'est déjà pour donner les limites, c'est
le rôle du président,
Vladimir Poutine, son Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères ne pourraient pas être jugés par parce qu'ils ont, ils bénéficient d'immunité. Donc elle précise d'emblée la Commission que ça ne sera pas possible. Donc, alors que tout le monde a évidemment
beaucoup d'espace.
Il y a aussi un autre aspect, c'est qu'un tribunal pénal spécial qui serait mené ou demandé par les Occidentaux, c'est aussi un double tranchant parce que ça peut aussi acérer encore un peu plus le ressentiment anti-occidental dans une partie du monde. On voit bien qu'on est dans un moment de grande fragilité avec des pays non alignés, avec l'Afrique, avec l'Iran, et que ça donne aussi parfois le sentiment que les Occidentaux veulent faire leur justice et imposer leur justice au monde. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais dans cette décision politique, il y a aussi des effets négatifs qui peuvent survenir et être mal compris par une partie du monde. Il faut aussi avoir ça en tête.
D'où l'intérêt de le faire dans le cadre des Nations Unies et peut-être par un vote de l'Assemblée générale. Mais c'est vrai que ça pose un problème. C'est vrai que cette idée n'est pas forcément très populaire dans les pays où les chefs d'État ne sont pas particulièrement
en Amérique du Sud, en Afrique.
Mais c'est vrai que, comme le disait Maxime, c'est la volonté des Ukrainiens avant tout de créer très vite un tribunal, de rassembler les preuves et de mettre la justice en accusation, même si c'est par contumace.
Vous vous dites déclaration lunaire, Roselyne Bachelot.
Oui, je trouve que Le rôle de la présidente de la Commission n'est pas de faire ce genre de déclaration éminemment politique qui relève du président du Conseil ou
Josep Borrell, éventuellement.
Voilà, ou du chargé des affaires étrangères de la. Une déclaration qui relève des chefs d'État et de gouvernement ou de leurs représentants dans l'Union européenne, mais pas de la présidente de la Commission.
Guillaume Ancel.
Moi, je trouve que c'est très intéressant. D'abord, le fait que ce soit l'Europe qui parle et pas... regardez, la visite du président Macron aux États-Unis, on n'arrive pas très bien à savoir s'il représente la France ou s'il est porte-parole de l'Union européenne. Il y a quelque chose d'un peu ambigu, comme toujours d'ailleurs avec lui.
Les deux, en général.
Est-ce que, voilà, est-ce qu'on défend... Mais je n'étais que lieutenant-colonel.
oui, mais je n'avais pas en tête.
est-ce qu'il défend une position européenne ou est-ce qu'il défend une position française vis-à-vis des États-Unis? Et ses propos sont toujours extraordinairement ambigus. Et là, ce que je trouve extraordinaire dans la proposition de Ursula von Leyen, c'est qu'elle nous dit, à un moment, il faudra sortir de la guerre, de cet affrontement militaire sans limite et sans règles, parce que c'est ce que nous montre la Russie, c'est qu'elle ne respecte aucune règle, même pas les règles, les usages de la guerre, pour revenir à une société de droit. Et quand on sera dans cette société de droit, pour moi, le message qu'elle envoie aux oligarques russes, c'est... vous serez responsable de ce qui s'est passé. Et on vous poursuivra même s'il faut 20 ans ou 30 ans. Et je pense à des drames internationaux où les acteurs de ces drames ont pensé que justement ils bénéficieraient d'une forme d'impunité. Et là, ils se rappellent les images de Mladic qui est toujours en prison et où ils peuvent se dire « Ah mince, c'est ça notre avenir ».
Les arrestations sur le Rwanda aussi.
Il faut rappeler d'abord que le crime d'agression, et c'est un crime spécifique. On appelait ça le crime contre la paix, ça date de la Seconde Guerre mondiale, fin Seconde Guerre mondiale, c'est après le tribunal de Nuremberg, donc c'est un crime spécifique, mais qui n'a pas de tribunal correspondant. Et donc c'est pour accuser un pays qui...
Qui agresse un autre pays
sans aucune raison, sans raison de, comment dire, d'autodéfense, qui est la seule qui est admise par la Charte des Nations Unies. Et donc, dans ce cadre-là, les dirigeants, ceux qui ont décidé simplement, il n'est même pas question forcément de crimes de guerre ou de quoi que ce soit, ceux qui ont décidé cette agression politiquement peuvent être, doivent être traduits en justice. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de tribunal spécifique pour ça, ça n'est, ma connaissance, ça n'est jamais arrivé.
Ça lui fait une mauvaise manière, Emmanuel Macron, quand même. Ursula von der Leyen, là.
Que ce soit moment, elle qui le dise, plutôt que lui.
Au moment où il est à Washington, à discuter avec le.
Vous voyez le mal partout.
Et à parler du grade. Oui, je vois le mal partout, mais je crois que.
Non, je pense que.
C'est un peu un coup de pied de l'âne. Hein.
L'aspect politique dont vous parlez, c'est que vous rappelez que Ursula von der Leyen, elle s'est rendue en Ukraine. Tous ses responsables sont allés en Ukraine. Ils ont vu ce qui se passait. Il faut rappeler quand même aussi les charniers. On découvre pas forcément tous les jours en Ukraine.
On va en parler dans une seconde.
Voilà, et on peut comprendre qu'il y ait une volonté du côté de l'Union européenne, parce que peut-être qu'elle n'est pas à la hauteur d'un point de vue des livraisons d'armes. Donc il y a aussi une volonté d'être là sur le terrain de la justice. Et d'autres, deuxième chose, la création d'un tribunal, c'est une exigence, l'une des 10 exigences, d'innombrables exigences de Volodymyr Zelensky pour aller à la table des négociations. Et vu qu'il y a cette petite musique partout, y compris jusqu'aux États-Unis, pour amener Zelensky à aller à la table des négociations, s'il y a une des conditions qu'on peut commencer à remplir, ce ne sera pas forcément la plus compliquée, il y a aussi cette volonté-là.
Antonin, et puis ensuite, non. J'ai une question très basique à poser.
Je rejoins quand même un peu Roselyne. La légitimité politique n'en vient pas à Ursula von der Leyen. Ursula von der Leyen n'est pas élue, n'est pas une chef d'État, et elle est une technicienne, si j'ose dire, ou en tout cas, elle est l'animatrice de la Commission européenne, elle n'a pas la légitimité pour porter cette voie-là. Et je suis assez curieux de savoir si tous les États européens ont été consultés ou pas. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr que tous les États européens seront alliés. Bien sûr, mais ça n'est pas le rôle politique de la présidente de la Commission de prendre ce genre d'initiative-là. C'est vrai que c'est, ça paraît assez étonnant.
Après que le Parlement européen a accusé, entre guillemets, la Russie de promouvoir le terrorisme.
Certes.
Donc c'est une suite logique de cette démarche.
Mais on voit là qu'il y a toujours une confusion des voix entre l'Europe et les chefs d'État et la légitimité politique de s'exprimer sur ces sujets-là. Et que pour les Américains, effectivement, comme le disait Guillaume Ancel, est-ce qu'Emmanuel Macron est la voix de l'Europe? Est-ce qu'il est la voix de la France? On voit que cette ambiguïté-là n'est pas totalement résolue et on le voit bien sur cette question.
Sur cette question, il est la voix de la France avant tout et c'est une visite d'État en l'honneur de la France et de son président. Mais quand il défend l'économie française, il défend évidemment l'économie européenne, tout est lié. C'est-à-dire, on ne peut pas aller, nous, petite France, aller mais voir les grands Américains sans leur parler de l'économie européenne.
Allez, on vient, je veux juste qu'on vienne, je veux juste qu'on vienne à notre tribunal.
C'est Max le chef.
Pardon, mais à chaque fois, vous déviez, vous partez à des kilomètres du sujet qui est écrit noir sur blanc sur l'écran et que, voilà. Bref. Ce Poutine, un jour jugé à la haie. Il y a quand même une question très basique qui se pose pour Guillaume Ancel, pour le colonel Goya. J'ai bien compris que ça prendrait des années, mais qui va aller chercher Poutine?
Non, mais il ne sera jamais jugé à la haie.
Qui va aller chercher Poutine pour le ramener à la haie?
La Russie n'est pas partie à la CPI, elle n'est pas partie comme les États-Unis.
La Russie n'a jamais reconnu.
J'ai bien compris. Mais donc, le principe du tribunal spécial, c'est précisément de lever ces obstacles-là.
Oui, mais il serait jugé par contumace. Parce qu'effectivement, personne ne va aller chercher. Comment on est allé chercher les dirigeants serbes avec des commandos, parce que c'était la guerre livrée par l'OTAN dans l'ex Yougoslavie. Là, on ne peut pas imaginer effectivement des commandos aller au Kremlin.
Voilà. Donc, ce qui suppose évidemment un changement.
Il peut être livré par la Russie.
Oui.
Changement de régime et on livre Poutine.
Oui, oui. D'ailleurs, ça ne peut être que ça, à moins d'envahir la Russie et d'aller le chercher directement à Moscou ou ailleurs, ou à Sotchi. Mais non, ça ne peut être que parce que la Russie l'accepte.
On en est loin.
Et on en est effectivement pour l'instant très loin.
On ne peut pas projeter cette situation dans la situation d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est clair qu'aujourd'hui, Poutine ne va pas se rendre à la haie si on crée un tribunal spécial demain matin pour dire « je voudrais répondre des accusations de crime d'agression ».
Et où est mon avocat ?
Et par contre, le message pour moi qu'envoie l'Union européenne et que je trouve très clair et à mon sens très ambitieux et je ne le regrette pas, c'est de dire à Poutine et aux Russes, de toute façon, il sera obligé de rendre des comptes devant une instance judiciaire et que par conséquent, à un moment ou à un autre, se posera la question de qui porte le chapeau en Russie. Moi, je suis persuadé que ce sont les Russes qui, à un moment, vont bousculer Poutine parce qu'ils voudront lui faire porter le chapeau, même s'ils ont une responsabilité évidente dans ce sujet. Mais ce sera tellement formidable de pouvoir dire que l'échec militaire qui se profile, ce sera Poutine.
Il y a autre chose.
Le tueront avant.
Pardon ?
Les opposants le tueront avant.
En tout cas, ce qu'on voit à la télévision russe, c'est que le message passe et que, au point de susciter des commentaires et même les porte-paroles du Kremlin de dire tous ceux qui seraient tentés de se rendre, eh bien, ils ont intérêt à ne pas le faire parce que sinon, ils vont terminer au tribunal.